Bonjour à tous. Vous avez vos Bibles. Pas que Paul nous a encouragés il y a un ou deux dimanches à prendre nos Bibles pour avoir le texte sous les yeux. Nous sommes dans 1 Jean au chapitre 4. Après le passage médité la semaine dernière concernant les faux prophètes au début du chapitre 4 et le discernement des faux prophètes, vous vous souviendrez de cette image que Paul a utilisée du faussaire. J'espère que plusieurs s'en souviennent. Le faussaire qui avait copier des tableaux à la manière de Vermeer, et il le faisait avec beaucoup de professionnalisme, si je puis dire, et il a trompé même les experts. Alors ça, c'est concerné les faux prophètes. Et aujourd'hui, à partir du verset 7 jusqu'au verset 21, n'est-ce pas ? J'ai pris le texte ici pour qu'il ne bouge pas de mes yeux, nous parlerons d'un amour authentique, un vrai amour. Les faux tableaux, l'image, on est trompé, et aujourd'hui, nous parlons de l'amour mutuel dans l'Église. Alors, j'aurais aimé projeter l'image de l'Église réunie au week-end d'Église. Je n'ai pas eu, cette idée m'est venue très tard et donc je n'ai pas pu présenter une photo de qualité, mais la photo de qualité existe, ne vous inquiétez pas, et peut-être que lors de notre prochaine agape, on projetera les photos du week-end d'Église. L'actualité me vient en quelque sorte un peu en aide, on peut toujours trouver des exemples. Mais on peut savoir que aujourd'hui, le service secret le plus performant au monde, le Mossad, a été trompé ou s'est laissé berner, peut-être par des agents doubles comme on connaît dans le monde de l'espionnage. Vienne a été une ville au cœur de cet espionnage entre les États-Unis et l'Union soviétique après la guerre, pendant toute cette guerre froide, comme on a appelé aussi, où des agents doubles trompent évidemment le pays ou le bloc pour lequel ils travaillent. Et on peut imaginer que Tsahal, aujourd'hui, doit se mobiliser parce qu'il y a eu une défaillance. On s'est endormi d'un côté, alors qu'on a été poussé à se protéger d'une menace qui venait d'un autre côté. Et on sait quelle douleur cela provoque en Israël. L'ancien directeur de Evangelis Omroep était avec un groupe en Israël, comme quelques-uns dans l'Église ont été avec un groupe il y a quelques mois, en Israël, non loin de cette frontière de Gaza. Et il disait, j'étais là quelques jours avant que ça se déclenche, et on se disait que c'était vraiment paisible, plus paisible que d'habitude. C'était évidemment une erreur de croire cela, mais tout semblait être paisible. Ma grand-mère paternelle utilisait souvent cette expression « sans l'ombre d'un jugement pour d'autres personnes », ce n'était pas son style, et elle disait « ça, c'est un vrai chrétien, une véritable chrétienne ». Vous me direz que le jugement de ma grand-mère, comme le nôtre, peut être empreint de subjectivité. C'est possible, et toutefois, la prédication de dimanche dernier nous enjoignait à discerner le vrai du faux. Le passage d'aujourd'hui est une progression dans l'exposé de l'apôtre Jean, nous orientant vers le caractère majeur de Dieu, l'amour. Et pour l'apôtre Jean, l'amour pour les frères sera le moyen de connaître Dieu qui est amour. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Il s'agit de connaître l'amour de Dieu dans le sens de la propitiation du sacrifice de Christ, mort pour nos péchés et en qui nous avons la vie. Cela n'a rien à voir avec l'amour répandu dans le monde, là où il se manifeste et là où il existe aussi. Mais ce n'est pas le même amour. Jésus n'était pas naïf. En Jean 2, au verset 23 à 25, je lis, gardez votre texte, nous allons lire en Jean tout de suite, mais dans l'Épître. Mais pendant que Jésus était à Jérusalem lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui, en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Notez que ce sont les versets qui précèdent la rencontre de Jésus avec Nicodème, qui vient interroger Jésus au sujet des signes miraculeux. Jésus lui répondant au troisième verset de l'évangile de Jean, « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Voilà donc bien la question centrale de nos vies, la rencontre avec Jésus, comme celle du péager à qui Jésus demande de descendre de son arbre, et nous savons que cette vie bascule par la reconnaissance de son péché, la promesse de mise en ordre de ses abus de perception d'impôts à son profit, le royaume de Dieu est entré dans la maison de Zachée. Alors nous connaissons bien des chrétiens qui ne soulèvent en nous aucune question quant à leur appartenance à Christ. Et c'est bien ainsi. Nous avons eu samedi, il y a 8 jours, notre journée pastorale de l'association avec les pasteurs et anciens et leurs épouses. Il ne nous vient pas à l'idée de douter de l'engagement sincère de chacun envers le Seigneur ni de la réalité de leur foi. Même si aucun n'est parfait, cette réalité du cœur n'en est en rien mise en doute. Un amour sincère se dégage sous le regard du Seigneur. Notre passage d'aujourd'hui nous met en face d'une responsabilité, mais aussi d'une réalité merveilleuse. Aimer les frères, et on ajoute aujourd'hui les sœurs. Le fondement est clair, cet amour est basé sur notre attachement fidèle à Christ et non sur la sympathie ou les atomes crochus, même si le réalisme fait que ces éléments périphériques comptent pour les êtres perfectibles que nous sommes. Il faut bien reconnaître une vraie fragilité de cet amour expérimenté dans l'Église, voyant combien de différends, de séparations, d'éloignements, parfois pour des motifs secondaires, cela devrait nous faire réfléchir à la nature profonde de notre relation. Sur quelle base elle repose dès lors que l'Église à laquelle nous sommes attachés correspond à nos attentes, tant théologiques que relationnelles? Ou bien nos priorités sont-elles ailleurs? Faudrait-il considérer la relation fraternelle dans une communauté comme on considère depuis des années déjà la relation affective avec les divorces, les séparations, les prises de recul, comme on dit prudemment, certains diront peut-être qu'on peut refaire sa vie ailleurs. Je vois des situations plurielles dans une autre église, en particulier où l'éclatement d'un noyau de responsables a fait des dégâts qui finissent par peser sur la santé, peser au sein même des couples, où l'un persévère et l'autre décroche, etc. Et où d'autres, plus fragiles, se mettent à l'abri dans une autre communauté sans toujours y trouver leur compte. On ne refait pas sa vie si facilement, même dans les églises. Peut-on néanmoins blâmer celui qui se met à l'abri pour trouver le calme et la paix que l'on est en droit de trouver dans une église chrétienne? Non, tout n'est pas toujours beau entre les croyants. Mais reconnaissons-le, il y a dans certaines circonstances des motifs légitimes. Ils peuvent exister. La cohésion de l'Église est fondée sur l'amour inspiré par la relation à Dieu. Quand il y a du flou sous cet aspect, cela se sent et c'est préjudiciable à la joie du partage dans le Seigneur. C'est alors qu'apparaît cette sorte de flottement, de vide difficile à définir, qui se traduit par une relation fraternelle quelque peu superficielle, qui ne correspond pas à ce qui nous occupe dans le passage d'aujourd'hui. Que dit le texte? Comme disait Paul Évry dimanche dernier, ne faites pas confiance à un bishop ou à un pasteur, mais vérifiez dans la Bible si ce qui est enseigné est vrai. Dieu est en effet invisible, et Jean nous dit qu'il demeure en nous quand nous aimons les uns les autres. Ceci nous amène au tout début de notre passage, dont la première exhortation est « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres ». Lisons les versets 7 à 12. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu, et si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Si nous ne nous aimons pas les uns les autres, nous pouvons tirer la conclusion que l'amour de Dieu n'est pas dans notre cœur, si nous suivons le raisonnement de l'apôtre Jean. N'est-ce pas en fait ce qui compte, c'est d'aimer à cause de l'amour de Dieu manifesté en nous, alors que nous vivions par celui que Dieu a envoyé, son Fils bien-aimé. La propitiation, c'est de cela qu'il est question. Cette place prise par notre Sauveur afin que la justice de Dieu soit satisfaite. L'amour de Dieu est généreux, mais comporte cet aspect qu'il est au bénéfice de ceux qui reconnaissent leur péché afin de recevoir le pardon. Manifester l'amour mutuel dans l'Église, ou plus généralement envers les frères et sœurs, est donc un amour très particulier. Il n'a pas n'importe qui comme objet. Nous revenons à cette authenticité du chrétien qui connaît Dieu et qui a une relation avec lui. L'amour qui est l'expression de l'essence même de Dieu, doit être spirituel et saint parce que Dieu est esprit et que Dieu est lumière. Romains, au chapitre 5, verset 5, dit « Cet amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Il ne peut en être autrement, il doit être manifesté dans la vie du croyant puisque l'enfant de Dieu est né de Dieu. Et quant au verset 8, il est dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu ». Dans certaines circonstances de la vie, des personnes peuvent être prêtes à se sacrifier parfois pour un membre de leur famille. Cela peut être le cas dans une prise d'otage. Parfois, ça se voit dans des films, un policier va s'avancer pour prendre la place d'un otage. En quelque sorte, il se sacrifie. Peut-être, parfois ça se termine bien. C'est quelque chose de fort qui est une compréhension du don de soi dans une perception intellectuelle de Dieu, peut-être. Du don de soi, mais qui n'est pas ce que la parole de Dieu décrit comme une connaissance personnelle du Dieu vivant, qui est la base de notre amour fraternel. Plus loin, le verset 17, disons le verset 17, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. C'est une connaissance de Dieu qui dépasse cette vie, mais qui est aussi une expérience vivante de cette relation en Dieu qui se vit chaque jour, dans chaque circonstance, et c'est décrit par certains comme une expérience passionnante qui nous fait grandir et ressembler de plus en plus à Christ. Peut-être ressentons-nous cet amour fraternel, peut-être plutôt comme une fatigue, comme une difficulté de chaque jour. Nous ne nous voyons pas chaque jour, nous nous voyons le dimanche, mais certains se rencontrent à d'autres moments de la semaine. Mais peut-être voyons-nous cela comme une fatigue supplémentaire à nos fatigues quotidiennes du train-train, et aussi du travail et de toutes les charges qui sont les nôtres. Je vais encore devoir investir dans un amour qui va me coûter, de l'énergie, parce que tout le monde n'est pas agréable, tout le monde n'est pas joyeux dans l'Église, tout le monde n'est pas enthousiaste dans la foi, et souvent il y a des moments difficiles. Jean 11, verset 35, qui nous montre la véritable humanité de Jésus, c'est le plus petit verset qui comporte deux mots, « Jésus pleura ». Et au verset 36, les Juifs dirent alors, « Voyez comment il l'aimait ». C'est bien évidemment une affection particulière, mais elle montre une dimension spécifique de l'amour selon Dieu. Le Fils de l'homme partage cette émotion légitime des humains pour son ami Lazare. L'amour n'est donc pas uniquement manifesté en actes matériels, mais aussi dans la dimension d'une affection profonde. Elle est à notre portée. Sans doute ne pouvons-nous pas partager une affection aussi profonde avec tous. Il est vrai. Cependant, la parole nous invite à partager un amour fraternel sincère. La seule manière de vivre, joyeuse et sainte, se situe au niveau le plus élevé, le niveau de l'amour chrétien. C'est une vie de joie et de liberté parce qu'elle est dans la pensée de Dieu. Cette manière de vivre assure confiance et courage malgré les difficultés de la vie. Un médecin new-yorkais du nom de Spitz a fait une étude sur les enfants trouvés qui vivent dans les hospices, afin de déterminer quels effets le manque d'amour et d'attention avait sur eux. L'enquête a démontré que les enfants privés d'amour se développaient à un rythme beaucoup plus lent que les autres. Certains même dépérissaient. La conclusion est que l'amour est l'atmosphère indispensable à la vie et à la croissance du corps. C'est sans aucun doute encore plus vrai pour la vie spirituelle que pour la vie physique. Ne sommes-nous pas sensibles aux réactions positives sous divers aspects dans nos relations dans l'Église ? Ou lorsque quelque chose est un peu négatif, un peu dur, ça nous fait un peu reculer et peut-être même un peu régresser. Lorsque j'envoie les convocations pour la pastorale de nos églises, je reçois sur notre groupe des pasteurs et anciens, les premières réactions sont souvent des réactions désagréable. La date est mal choisie. Nous avons d'autres choses. Nous n'avons pas prévu à cause de... Mais nous prévoyons cela 1 an à l'avance et nous prévenons 7 mois à l'avance. Et cela tombe comme quelque chose de... Bon, ça nous perturbe un peu. Heureusement, ces réactions sont mineures par rapport à l'ensemble. Mais dans l'Église aussi, nous avons parfois des réactions qui sont un peu désagréables, un peu fraternelles, dirais-je. Hier, j'ai envoyé un avis pour voir si nous pouvions tenir une répétition de chorale aujourd'hui. C'était une date qui était annoncée, mais pas pressentie ni confirmée. Et j'étais très étonné parce que j'ai reçu une suite de réponses positives en disant « ben oui, nous serons là ». Ça m'a surpris, parce que ce n'est pas toujours le cas. C'est clair et enthousiasmant. Nous verrons pour notre prochaine agape, nous avons eu une réflexion en assemblée d'église aussi sur le service aussi pour les agapes. On verra ce qu'il en sera. Mais l'amour se manifeste dans les détails, dans la bonne volonté qui ne traîne pas les pieds. L'amour manifesté dans la compassion pour ceux qui souffrent, les malades, une veuve. La loi n'est pas contre ces choses, n'est-ce pas ? J'ai entendu des récits de coopération en Israël suite à la mobilisation de 300 000 réservistes de toutes les professions, puisqu'ils sont pour la plupart des réservistes potentiels. Le pays est menacé et on s'unit pour faire face. Il y a longtemps qu'il n'en a pas été ainsi. J'ai entendu dire, un réserviste dire, on a des divergences, mais on met la priorité là où elle doit être. Ce sera dur, on le sait. En Jean 1, verset 18, nous lisons « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. L'amour de Dieu visible. » Notre passage au verset 12 dit la même chose « Personne n'a jamais vu Dieu. » Et si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Ou bien la nature de Dieu est présente et elle se manifeste, ou bien elle n'est pas présente. Et si Dieu demeure en nous, c'est une richesse, une bénédiction. Notre amour réciproque est bien sûr limité. Mais s'il existe, c'est par la présence de Dieu dans la perfection de son amour à la croix. 1 Jean 2, la première partie du verset 8, « Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, parce que les ténèbres se dissipent et que la véritable lumière luit déjà. » Verset 10 de notre passage, « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. » C'est le même propos. Et il n'y a rien en lui qui le fasse broncher. En ceci sont manifestés les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est point de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Haïr, aimer, ténèbres, lumière, vivre dans la lumière, demeurer dans le péché et les ténèbres, tout cela est certes fort tranché, voire terrible. Nous reconnaissons que le péché, une fois entré dans le monde, la haine et le meurtre sont apparus. Caïn tua son frère Abel. Ce mal est toujours présent aujourd'hui dans le monde et il n'est pas nécessaire de vous donner une esquisse de ce tableau désastreux. Toutefois, il est clair que notre imperfection laisse quelques stigmates du manque d'amour qui ne sied pas aux enfants de Dieu. Ah, si tout était parfait en nous, entre nous, dans l'Église, que cela fait du bien lorsque des paroles aimantes et sincères sont prononcées. Quel apaisement lorsque des actes d'amour sont accomplis. Nous ne pouvons pas tout faire, être là pour tous et toutes, mais les marques d'amour, de compassion, ne sont pas un luxe. Dans le monde dans lequel nous vivons, c'est presque un luxe de vivre en paix et de partager l'amour de Christ. Qu'en faisons-nous ? Et pourtant, ce n'est pas facultatif pour celui qui croit, parce que c'est bien là le signe de son appartenance à Christ, selon notre texte. J'entends cela parfois tout naturellement de l'un ou l'autre dans l'Église. Si tu as besoin, nous sommes là. Nous pouvons aider. Qu'est-ce que cela dit de la vie avec Christ de celui ou celle qui dit cela ? Cela dit beaucoup. Prenons garde à ne pas avoir une pratique religieuse qui frôle l'hypocrisie ou un certain aveuglement, tel que Jésus l'a débusque chez les pharisiens, ou en religion, ou une religion sans réalité pratique, comme il est écrit en 2 Timothée 3,5, « Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. » Il est vrai que ces deux exemples sont extrêmes, mais à notre niveau, dans notre réalité, sommes-nous vraiment des conquérants dans l'amour ? Ou sommes-nous trop occupés, trop absorbés pour encore avoir une disposition spirituelle à aimer ? Il y a un chant du groupe néerlandais, c'est là, qui titre « Ruimte voor u ». Is er nog ruimte voor u ? Y a-t-il encore de la place pour toi, Seigneur ? Nous sommes tellement occupés. Mais la réponse que vous donnerez peut-être sera oui, mais il y a toujours quelque part un mais. Hébreux 4, 12 et 13 dit ceci, « En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Les versets 16 et 18 à 18 de notre passage disent « Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. » Et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement. C'est la même perspective. C'est parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Et celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Chaque fois qu'une angoisse nous prend, c'est bien parce qu'il a manqué ou qu'il manque quelque chose à notre amour. Un peu comme le jeune homme riche à qui Jésus dit « Il te manque quelque chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de ta croix et suis-moi. » Ce n'est pas ce passage qui est l'objet de notre méditation, mais c'est le malaise au fond du cœur du jeune homme dont parle Jésus. Il te manque quelque chose. L'Épître aux Romains, au chapitre 13, dans les versets 8 à 14, est à ce titre un passage emblématique qui fait entendre le tic-tac du carillon du temps de Dieu. J'ai horreur des carillons et de leur tic-tac. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'aime pas cela. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, et vous savez que vous connaissez ce texte, et je vais plus loin, l'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour. Puis suivent des déviances, mais je donne la dernière phrase, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour en satisfaire les convoitises. Le passage qui suit parle du manger et du boire et de la différence entre les jours, mais je lis quelques versets qui suivent, au chapitre 14, le verset 1er, « Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. » Verset 3, « Dieu l'a accueilli. » Et je mettrai plus l'accent sur ce verset 3. « Dieu a accueilli ce croyant. Il est peut-être faible. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre ? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, verset 4, cela regarde son Seigneur, mais il tiendra bon car Dieu a le pouvoir de l'affermir. Il est bien vrai que nous sommes prompts à juger, à être dérangés par ceci ou cela, et ses pensées, ses comportements sont autant d'obstacles à un réel amour. Je ne suis pas en dehors de ce que je viens de dire. On est très vite dérangé par quelque chose qui ne nous plaît pas. Ça ne correspond pas à ce que nous voulons voir dans l'Église, ou peut-être que ça nous a été désagréable. Celui que le Seigneur veut voir, cet amour parmi nous, est celui aussi que le monde veut voir parmi les croyants, individuellement et en Église. Nous prenons ce que l'apôtre Jean donne comme enseignement, les arguments, les motifs, et d'autre part ce que l'apôtre Paul amène comme conclusion qui devrait être un apaisement pour chacun de nous. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Cela ne veut nullement dire que plus rien ne doit faire l'objet d'analyse, d'examen, qu'aucun avis ne peut être émis, puisque chacun est responsable devant Dieu. Non, n'oublions pas pour autant le discernement et tous les enseignements qui concernent la vie de l'Église. Tout n'est pas permis pour autant, mais notre attitude doit être sagement positive et orientée vers l'amour des frères et des sœurs. Un commentateur écrit ceci, « Pour s'aimer les uns les autres et accomplir ainsi la loi du Christ, il faut commencer par s'oublier soi-même et pour renoncer à soi, il est nécessaire d'être absorbé par un objet plus excellent, d'avoir été captivé par un être d'une valeur infinie et pour l'amour duquel on est prêt à tout sacrifier, même notre propre vie. » L'apôtre Paul ne dit pas autre chose après avoir déclaré s'être laissé dépouiller de tout. Philippiens 3:12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Tout, c'est tout. » Nous ne sommes pas apôtres, mais en Philippiens 3:17, un peu plus loin, donc, il écrit « Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. » Dans tout acte d'amour, il y a une part de renoncement, Dans tout service, il y a du renoncement. Chacun doit savoir ça dans l'Église, et la fidélité chrétienne est à ce prix. Je rappelle ce que disait le commentateur Gaston Racine, pour renoncer à soi, il est nécessaire d'être absorbé par un objet plus excellent. Être disposé à servir dans l'Église est un acte d'amour pour Christ et envers les autres. Donner et se donner, c'est une marque d'amour. Que les choses seraient plus riches et bénies si cette réalité était celle de tous ceux et celles qui appartiennent au Seigneur. On parle dans notre temps de réduire notre consommation de diverses manières. Mais on parle aussi de chrétiens consommateurs qui viennent se servir et puis repartent sans autre forme de procès. Ce n'est pas vraiment le modèle idéal de la croissance spirituelle et ce n'est pas non plus le modèle du partage dans l'amour fraternel réciproque. Ce que nous examinons ce matin n'est pas de nature à culpabiliser qui que ce soit, mais bien plutôt d'encourager chacun à sa mesure, avec ses moyens, ses possibilités, de grandir au service du Maître en montrant qu'il lui appartient et que cette preuve est concrétisée, matérialisée par l'amour qui vient de Dieu, activé par son Esprit en nous. C'est la voie d'un contentement et d'une relation fraternelle bienfaisante et pas d'une vie d'Église désabusée. Hier, je vais passer ce passage parce que le temps va nous manquer. Toutefois, même dans les Églises, combien de déceptions, de tristesses légitimes il y en a, pourraient être évitées si nos démarches, nos propos, nos attitudes était empreint de plus d'amour et de moins de jugement. On a examiné lors des études du jeudi la question de nos différends, nos petits et peut-être nos grands différends, qui doivent se situer logiquement dans une échelle, pas l'échelle de Richter, des tremblements de terre, mais sur l'échelle de la gravité. Est-ce que certains sont importants, sont relatifs, d'autres peut-être plus sérieux, méritent un examen plus approfondi? Mais abordons ces choses avec un amour et un respect réciproque. C'est tout un travail qui peut s'alléger par l'amour inspiré par Christ. Permettez-moi de rappeler ici ce que Jean a exposé au chapitre 2, que l'amour pour nos frères était la preuve de notre communion avec Dieu. C'est bien de prendre la Sainte Cène, mais il est important de considérer avec gravité cette communion avec Dieu, la preuve de notre condition de fils. Au chapitre 3 de 1 Jean, une question de lumière et de ténèbres dans le premier passage et une question de vie ou de mort dans le second. Parce que Dieu est amour, l'amour est le critère de la réalité de notre vie spirituelle. Pourquoi ce rappel ici en conclusion? Parce que nous avons une tendance naturelle à nous replier sur nos motifs de résistance, nos bonnes raisons pour ne pas plus nous engager, pour ne rien céder même. Que l'adversaire ne nous prenne pas à ce piège. Comme Jean l'écrit 6 fois dans notre passage, « Demeurez », cela nous rapporte à notre communion personnelle avec Jésus-Christ. C'est rester dans l'union spirituelle avec lui pour éloigner le péché et lui faire une confiance croissante. Lui obéir et jouir d'une communion riche telle que Dieu l'a voulu pour chacun de ses enfants. Pour terminer, les 2 derniers versets de notre passage. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu, il doit aussi aimer son frère. C'est le même amour, aimer Dieu et aimer son frère. C'est indissociable et interpellant, puisqu'il est plus facile d'aimer ce qui se voit. Et si nous n'aimons pas ce que nous voyons, l'apôtre Jean dit, comment pouvons-nous aimer Dieu ? Ou dire que nous aimons Dieu ? C'est pire. Le frère, la sœur, est une manifestation visible de Dieu. D'où la question pertinente de Jean. Une focalisation sur une contradiction et un mensonge.